la parole est à vous. Les agents nous parlent de leur métier. La parole est à vous. Les agents nous parlent de leur métier.
Bonjour chers auditeurs. Aujourd'hui, je vous propose, au sommaire de cette émission, sur les emplois de direction, trois sujets sous forme de questions. Comment gérer sa carrière au sein des emplois de direction ? Quels conseils et accompagnements votre réseau peut-il vous apporter ? Les élections, contraintes ou opportunités ? Pour répondre à ces questions, j'ai le plaisir de recevoir Madame Hélène Guyet, vice-présidente du Syndicat national des directeurs généraux des collectivités territoriales. Bonjour Hélène.
Bonjour Frédéric.
Hélène, pourriez-vous nous présenter le syndicat et ses missions principales ?
Je vais le faire avec grand plaisir. Je voudrais commencer par vous dire que nous avons fêté les 71 ans du Syndicat national des directeurs généraux des collectivités territoriales cette année. C'est une très belle longévité qui nous a permis de devenir une organisation territoriale très représentative dans la catégorie A. Et en termes de mission, notre cœur d'action tourne autour des emplois de direction. Alors, ces emplois de direction, ce sont les fonctions de directeur, directrice générale des services ou en fonction de direction générale adjointe. Et ce que je souhaite qu'on retienne pour le SNDGCT, c'est que nous représentons aujourd'hui 4000 adhérents sur environ les 7500 emplois fonctionnels qui ont été repérés par le CNFPT. Et j'insiste là-dessus, toutes strates confondues, A et A+, du rural, de l'interco, de la commune, du département et de la région aussi. On a une organisation qui est traduite en 10 vice-présidences avec 3 axes forts. Et c'est ça qu'il faut aussi avoir vraiment à l'esprit. Le premier, notre expertise auprès des ministères sur tous les champs de préoccupation des directions générales en termes d'organisation territoriale, de politique publique et d'action managériale. On a un deuxième axe très fort qui est la production de réflexions. Ces réflexions en termes de prospective, de stratégie de l'action publique. Je cite par exemple les transitions au sens large, la digitalisation, les innovations aussi. Et puis le dernier axe auquel nous nous consacrons prioritairement, c'est l'accompagnement de nos adhérents. C'est une dimension historique du syndicat et c'est un accompagnement que nous mettons en place tout au long de la trajectoire professionnelle de nos adhérents. Voilà. Merci pour ces missions principales.
Merci Hélène. Alors, sans transition, quels conseils apporteriez-vous à un cadre de direction pour gérer sa carrière au quotidien ?
Un seul, voyez-vous, pas de conseil au pluriel, mais un seul. Ce seul conseil, c'est penser à soi. Alors évidemment, penser à soi dans sa dimension professionnelle, sur deux registres, ses propres besoins, et donc forcément, le deuxième registre, sa valeur ajoutée. La valeur ajoutée que l'on va développer dans l'exercice de ses fonctions, et la valeur ajoutée que l'on va développer vis-à-vis de ses collaborateurs. Mais aussi, évidemment, lorsqu'on est sur un emploi fonctionnel, la valeur ajoutée vis-à-vis de l'exécutif local et plus globalement des élus du territoire. Les besoins, c'est en deux mots, de quoi ai-je besoin ? Qu'est-ce qui va me stimuler ? Qu'est-ce qui va contribuer à mon équilibre de vie ? Qu'est-ce qui va me permettre de me développer sur le plan professionnel ? Qu'est-ce qui va faire que je serai confortable ou inconfortable sur mes modes de travail, mes relations. J'insiste toujours sur cette notion de besoin parce que, en fait, je crois que les directions générales oublient de penser à ça d'abord. Or, c'est l'un des socles vraiment forts, constitutifs de la qualité professionnelle. Et puis, le deuxième point dans le penser à soi, donc les besoins pour le premier point, le deuxième point, c'est la valeur ajoutée. qu'est-ce qui fait ma différence, en quoi je compte particulièrement dans cette organisation-là, sur ce territoire-là, aujourd'hui, mais qu'est-ce qui fera ma valeur ajoutée demain? Et donc, qu'est-ce que je peux apporter aux équipes de plus aujourd'hui et comment est-ce que je prépare et j'anticipe mon propre développement pour les années futures? Et c'est là qu'il faut être à l'écoute des mutations, des transitions, des développements à mettre en place. Voilà pour ce deuxième point en conseil.
D'accord. Alors, afin de poursuivre, certains emplois, comme les emplois fonctionnels, sont par définition précaires parce qu'il s'agit de postes administratifs ou techniques à haute responsabilité, du fait bien entendu des relations très étroites vis-à-vis de l'autorité de nomination. Cette dernière doit pouvoir confier la responsabilité de la direction des services à un cadre dont il y a une totale confiance. Mais en contrepartie, l'autorité peut aussi, à tout moment, révoquer ce cadre en cas d'alternance politique ou pour tout autre motif, sans toutefois compromettre, je dirais à l'excès, les garanties de carrière accordées aux agents. Dans le cas où il est mis fin au détachement d'un cadre dirigeant, quel accompagnement propose le syndicat national des directeurs généraux?
Vous avez raison de replacer le contexte de ces fins de détachement, et notamment parce que la fin de détachement est encore bien trop souvent, je dirais, vécue comme une épreuve presque insurmontable, avec tout ce qui va avec ce type d'épreuve, ou en tout cas lorsque c'est ressenti tel que. Bien sûr, la fin de détachement n'est pas quelque chose qui se vit de manière agréable, parce que c'est la fin. C'est la fin d'une histoire avec un territoire, c'est la fin d'une histoire avec une équipe, c'est la fin d'un projet, c'est la fin d'une relation. Et aussi parce qu'il y a une autre dimension que nous avons très bien repérée depuis longtemps, c'est que la fin de détachement n'est pas nécessairement intégrée comme une donnée socle de la fonction de direction générale. Et je veux à nouveau redire que emploi fonctionnel signifie risque fort de mobilité et mobilité. Risque fort de subir cette mobilité et de toute façon mobilité à intégrer comme donnée dans le parcours professionnel. Tous ces éléments-là sont présents de plus en plus à l'esprit de nos adhérents et des directions générales, mais bien souvent c'est compliqué de l'aborder. C'est compliqué aussi du côté de l'exécutif, hein, des élus, de se dire qu'il faut rompre avec une direction générale. Bien sûr, il n'y a pas d'équilibre dans la relation à ce moment-là. Néanmoins, le côté désagréable et inconfort, il existe aussi du côté des élus. Et donc, c'est là que pour le SNDGCT, nous avons objectif et un accompagnement sur plusieurs registres. Le premier registre, c'est de veiller au respect du droit et veiller à ce qu'il y ait le respect dû aux personnes. Parce que, alors souvent c'est le cas, hein, respect du droit et respect dû aux personnes, mais aussi, il arrive que ou le droit ou le respect de base dû soit bafoué. Tout simplement parce qu'on est dans le tourbillon des émotions, des comptes à régler, et aussi parfois de la méconnaissance simplement des règles de base. Donc le syndicat est là pour accompagner, pour aider, pour soutenir et pour rappeler, le cas échéant, les règles qui régissent la fin de détachement sur emploi fonctionnel, seul ou avec des partenaires d'ailleurs. Le deuxième point de notre accompagnement très fort, c'est faire en sorte d'entrer dans l'échange avec le maire ou le président, par le haut. Ce que j'appelle par le haut, c'est-à-dire faire en sorte de décompresser la tension qui accompagne les fins de détachement sur emploi fonctionnel et faire en sorte de décompresser tout ce qui est de l'ordre émotionnel très fort. Pas la peine de justifier, d'expliquer, de décortiquer, de revenir sur ce qui a fait ou ce qui a conduit à la fin de à la décision de fin de détachement sur emploi fonctionnel, à cette rupture. C'est un acte, c'est voilà, c'est posé, c'est une décision qui est prise. On peut ne pas être d'accord avec, mais c'est posé, dont acte. Et on aborde là le troisième volet fort de notre accompagnement, c'est de négocier cette sortie par le haut, d'être à côté de nos adhérents, mais en même temps de favoriser, faciliter le dialogue et la négociation avec le maire ou le président, autour de trouver du temps, des moyens associés, qui peuvent être du coaching, qui peuvent être des modalités de mise en relation, des formations, pour permettre au DGS ou au DGA de quitter le plus rapidement possible la collectivité et de mobiliser son énergie vers du positif plutôt que du négatif. Et enfin, je l'ai dit tout au long de ces trois premiers éléments, notre dernier point, c'est l'accompagnement en termes de gestion des émotions, parce qu'il ne faut pas croire, même quand on est très bien préparé, la notion de rupture, elle est compliquée à vivre. Et donc, nous avons un certain nombre là d'outillages et de dispositifs, des appuis psychologiques, du contrat d'assurance aussi sur le volet financier, parce qu'une fin de détachement sur emploi fonctionnel pour un DGS ou un DGA, ça peut aller jusqu'à 40-50% de perte de rémunération dans un délai extrêmement court. Ça vient percuter des logiques personnelles aussi. Et donc, on ne peut pas être seul pour faire face à ces éléments.
Oui, ce sont des choses très justement. Pardon, cette entrée dans l'échange par le haut est effectivement très très importante dans le fascicule que vous avez rédigé sur justement la décharge de fonctions. Vous insistez beaucoup sur ce rôle de médiation, de négociation, et bien entendu de gestion des émotions. Une fois que malheureusement le coup près est arrivé, ça ne sert à rien de revenir dessus, et il faut construire sur l'avenir et appuyer par ce fameux protocole d'accord que vous proposez également pour essayer de construire sur une relation pour les 6 mois qui viennent, c'est ça?
Absolument, et c'est l'un des points cruciaux, et c'est vrai que cette gestion des émotions, ce deuil, c'est un processus de deuil professionnel à faire, il est souvent occulté, on se raccroche au rationnel, à l'objectivation, y compris sur des collègues qui occupent des fonctions dans des strates importantes. Cette dimension-là est souvent laissée de côté, et c'est là que le syndicat peut parler à la place d'eux, peut permettre de se mettre en distance aussi, sans occulter évidemment, encore une fois, le droit, la règle et l'intérêt des DG, mais dans un esprit le plus constructif possible.
Oui. Alors, s'agissant des malheureuses décharges de fonctions, justement, dans un environnement en constante évolution, les traditionnelles alternances politiques sont-elles toujours la principale raison de mobilité d'un cadre dirigeant?
Vous le sous-tendez dans votre question.
Alors, je dirais les élections, contraintes ou opportunités.
Ouais, absolument. L'environnement est de plus en plus complexe, je ne reviens pas dessus. J'ai écrit un certain nombre de choses aussi autour de ça, sur cet environnement.
Notamment sur le profil des directeurs généraux tels que vous le voyez, avec également l'importance de la formation professionnelle.
Oui, l'importance de la formation professionnelle, le fait que nous devons être aussi... Alors d'abord sur l'environnement, il est de plus en plus complexe, les tensions sont de plus en plus fortes pour les élus aussi, les repères sont de plus en plus flous, on est sur des territoires qui sont avec des zones géographiques extrêmement brassées, on dépasse et on transcende les logiques administratives classiques, et des équipes aussi municipales ou départementales, des équipes élues qui sont arrivées aux manettes ces dernières années, aux responsabilités ces dernières années, qui n'ont pas tout à fait la même culture territoriale que ce qui pouvait exister pour des tas de raisons. Le rythme est vraiment très soutenu. Et du coup, il y a un tas de paramètres qui échappent. Voilà. Donc on peut être un très bon professionnel, avoir un certain nombre de clignotants au vert, être en vigilance constante, se développer, et puis pour des tas de raisons qui sont de l'ordre des stratégies individuelles, collectives, de brassage politique, faire l'objet d'une perte de confiance, qu'il y ait une rupture qui puisse s'exercer. Et donc, la question, elle est, est-ce que on se contente, et c'est pour ça que je parlais des besoins tout à l'heure et en première question, c'est est-ce que on s'intéresse à soi aussi, qu'est-ce qui va être son propre moteur, comment on anticipe, comment on tente de garder la main, puisque tout ça doit être évidemment administré, piloté avec beaucoup d'humilité, est-ce qu'on tente de garder la main et ce que j'appelle manager, de garder la maîtrise du management de sa trajectoire. On pense au management de ses équipes, on pense au management de projet, on pense rarement au management de sa trajectoire. Et donc ça veut dire évidemment rester à l'écoute des tendances, être avant-gardiste, développer son réseau. Ça veut dire aussi rester en prise avec l'employabilité. Aujourd'hui, c'est pas toujours des experts qui sont recherchés. Et les fonctions de direction générale ont très fortement évolué autour des questions de leadership, de management des expertises, d'agilité. Alors ça dépend des endroits, ça dépend des territoires, il n'y a pas d'uniformité sur la question. Mais c'est vraiment qu'est-ce que je fais de ça en tant que DG? Quelles sont les hypothèses que j'entrevois pour mon parcours? C'est pas parce que j'étais DG toute ma vie que je le resterai. Et donc, qu'est-ce qui m'intéresse? Comment je prends des contacts autour de ça? Et puis, comment je me tiens prêt ou prête aux différentes hypothèses et aux différentes issues qui se présentent à moi? Subies, parfois, hein, au lendemain des élections, et ou choisies. Et c'est à ça que nous exhortons, choisir, c'est-à-dire anticiper et rester vraiment dans le jeu en lien avec évidemment les élus, mais rester dans le jeu le plus possible et faire les choix pour soi en toute conscience des risques pris. Voilà. D'autant qu'on n'a pas parlé des logiques personnelles qui bien sûr viennent impacter tout ça. Et qui doivent être aussi prises en compte dans ce management des trajectoires.
Oui, tout à fait. Je reprends quelques chiffres, si vous me permettez, selon une étude de 2016 qui a été faite par le CNFPT, donc le Centre National de la Fonction Publique Territoriale, étude réalisée sur les villes de plus de 40 000 habitants après les élections municipales en 2014, sur 209 collectivités, 66% avec réélection de l'exécutif, 34% avec alternance, 53% des collectivités ont vu leur directeur général partir.
Oui. Et vous parlez des collectivités de plus de 40 000 habitants, hein, qui sont l'un des volets forts de nos adhérents, mais pas que. On a aussi beaucoup de communes et vous savez que c'est aussi la majorité des structures qui sont de moins de 40 000 habitants aujourd'hui sur notre territoire national. Et ce que nous observions encore il y a quelques années sur ce mouvement que vous venez d'écrire à travers les statistiques sur les collectivités les plus importantes à partir de 40 000 habitants est strictement similaire sur toutes les collectivités aujourd'hui sans question de strate ni de taille. Et nous avons depuis 2014 observé un mouvement autour de ces fins de détachement sur emploi fonctionnel sans raison classique. Plus l'alternance politique n'est plus le sujet en fait. Hein. On voit classiquement des alternances politiques sans fin de détachement aussitôt après les élections, parfois 18 mois ou 2 ans plus tard, et parfois pas du tout. Et puis on voit aussi des endroits où il n'y a pas du tout d'alternance politique, et voire même continuité de l'exécutif avec une volonté de changement qui peut relever de plein d'éléments différents. Et ça touche toutes les strates des collectivités. C'est d'autant plus important à avoir à l'esprit que, et sans rentrer dans le détail, là je renverrai vers le guide des emplois fonctionnels et vers les productions du SNDGCT, mais dans les possibilités en cas de fin de détachement sur emploi fonctionnel, il y a des possibilités de reclassement. Quand on est dans des structures où le DG est seul cadre A, où il y a 2 ou 3 cadres A, je vous laisse imaginer ce que ça peut embarquer comme gestion des difficultés et des émotions. Voilà. Ce qui n'est pas forcément plus facile d'ailleurs dans les plus grosses structures, hein, parce que quand on a été DG dans une grosse structure, se retrouver reclassé sur un autre type de poste, c'est pas forcément très facile à vivre. Ça, il faut bien le dire, et il faut qu'il y ait un vrai contenu de poste pour que les uns et les autres puissent s'en sortir. Voilà. Donc oui, on est sur un mouvement très très fort qui s'est accentué ces dernières années. Le mandat 2014-2020 était particulièrement, on va dire, violent, brutal et déstabilisant à ce titre. On verra pour 2020. C'est bien pour ça qu'on pousse les uns et les unes et les autres à se préparer au mieux en fonction de là où il ou elle en est.
D'accord. Ben écoutez, je me permettrai de dire que ce sera notre mot de la fin. Malheureusement, notre émission touche à sa fin. Merci Hélène Guillet pour ces éléments de réponse apportés à nos questions. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes vice-présidente du syndicat national des directeurs généraux des collectivités territoriales. Quant à vous, chers auditeurs, vous pouvez réécouter cette émission ou la télécharger sur radio.cnspt.fr. Je vous dis à bientôt pour une prochaine émission. Au revoir.
La parole est à vous. Les agents nous parlent de leur métier.